École normale supérieure, savoir en multimédia.
Alors, il est évident que cette question de l'identité, n'est-ce pas, il y a deux angles d'attaque la concernant. D'abord, évidemment, l'angle définitionnel, classique, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une identité ? En général, et puis d'un point de vue collectif, qu'est-ce que c'est réellement qu'une identité ? Et ça, c'est le premier angle. Mais le deuxième angle, qui est une question qui dépend de la première, mais ne s'en déduit pas immédiatement, c'est à quelles conditions une identité peut-elle fonctionner comme une norme ? Parce qu'en elle-même, on peut dire que peut-être l'identité est simplement un état de choses. Il y a des, effectivement, en définitive, tout ce qui existe peut être, nous reviendrons sur ce point qui n'est pas simple, mais qui existe quand même, tout ce qui existe dans un monde donné peut se présenter comme dans un certain régime d'identité. Mais le problème se complique lorsqu'on se demande si cette identité peut avoir une position normative, c'est-à-dire être affirmée et proposé comme quelque chose qui non seulement doit être défendu, mais doit être prorogé, consolidé, au nom précisément de la différence identitaire qu'elle représente. De ce point de vue-là, il y a une complication supplémentaire typique du monde contemporain, qui est le rapport entre l'identitaire et la diversité. Parce que le thème apparemment tout à fait déployé aujourd'hui de la défense de la diversité suppose évidemment que soit spécifié de quoi on parle quand on parle de diversité. Or, en définitive, c'est la diversité d'un certain registre d'identité. Ce sont des identités qui diffèrent. Et donc, le problème latent à la question de la diversité et de la défense ou de la promotion de la diversité, c'est le statut de l'identité, c'est-à-dire le mode propre sur lequel on reconnaît les identités et on règle, on accepte ou on règle ou on norme leur coexistence. Ceci, notons-le, a également une forte connotation biologique, parce que le premier type de diversité dont on promeut la défense, c'est la diversité biologique, la diversité des espèces. Et en réalité, ceci nous indique déjà qu'à beaucoup d'égards, le thème le plus évident qui soutient la notion d'identité est quand même le thème de l'espèce. De l'espèce, puis du genre, puis... comme si toute multiplicité qui s'affirme était à un certain niveau composée d'identités qui ont pour paradigme plus ou moins affiché l'identité des espèces dont on va promouvoir la défense au nom d'argumentaires compliqués sur lesquels éventuellement nous reviendrons, mais c'est un peu un autre problème. Alors, les identités, on connaît bien leur jeu, leurs spécifications contemporaines. On peut évidemment parler d'identité nationale. Identité nationale dont les modulations nominales sont les termes comme patrie, nation, en un certain sens l'État lui-même. Patrie, nation, État sont des déclinaisons de quelque chose qui renvoie au motif d'une identité nationale, et Dieu sait que cette identité nationale a connu son explosion, son apogée, en particulier au XIXe siècle, où elle est devenue un thème absolument central de la subjectivité politique. C'est au nom de cette identité que des millions de gens sont allés se faire massacrer dans des querelles qui n'étaient pas forcément décisives pour eux, pour leur destin existentiel. Il y a des identités qui sont peut-être supranationales. Alors, c'est les identités de civilisation, les identités de grands regroupements, l'identité européenne, si ça signifie quelque chose, ou l'identité occidentale, ou l'identité du monde musulman, ou l'identité asiatique. Mais là, plus on arrive vers l'Asie, plus ça s'obscurcit. Je pense que, de façon absolument définitive, l'identité asiatique sera mystérieuse, comme l'a été dès son entrée sur la scène du monde le Chinois. Et au fur et à mesure qu'il devient lui-même impérial, c'est le mystère impérial. Synthèse. Après, il y a des identités sociales, évidemment. Il y a des surensembles, il y a des sous-ensembles, il y a des identités sociales. Alors, évidemment, c'est élaboré dans les mots groupe social et dans la thématique des classes, après tout. La thématique des classes, nous y reviendrons, elle est toujours suspecte ou possiblement tentée d'être identitaire. Il y a eu un destin dont nous connaissons le caractère absolument dévastateur et terrifiant, qui est l'identité raciale. Alors là, les catégories, nous les connaissons, c'est noir, blanc, juif, arien, etc. Il y a aussi toute une déclinaison historique des thématiques identitaires raciales. Il y a connexes mais différentes les identités culturelles qui aujourd'hui sont précisément tout à fait mises en avant contre le régime de l'universalité abstraite et qui peuvent être des identités de religion, de loi, de coutumes, de langue, de système matrimonial, de rapport à la nature, etc., etc. Il y a une déclinaison très complexe de ce que peut être une identité culturelle. Il y a évidemment les motifs de l'identité sexuelle, qui eux aussi sont très agités depuis des décennies. La structure qui est à l'horizon de cela, c'est évidemment la différence homme-femme, mais elle est elle-même déclinée dans la théorie des genres, où on va voir les figures identitaires, hétérosexuelles, homosexuelles, transsexuelles, bisexuelles, et finalement toutes les nuances et combinaisons qui déclinent l'identité sexuelle dans des modalités que certains théoriciens du genre considèrent comme potentiellement infinies. Et puis, en définitive, il y a aussi l'identité personnelle. Alors, l'identité personnelle, elle est quand même elle aussi déclinée dans une série de notions, le moi, le sujet, l'individu. Et finalement, on voit que cette question, ce motif identitaire circule comme cela, traverse toute une série de registres à l'intérieur duquel il définit des pertinences. On peut soutenir que nous sommes dans une époque d'affirmation identitaire, mais d'affirmation identitaire dans un espace ouvert. Ce n'est pas l'affirmation identitaire polarisée sur strictement, comme ça a été le cas, l'identité nationale ou l'identité raciale, ou même l'identité de classe, c'est une affirmation identitaire plus ramifiée, plus ductile, et donc dans nos sociétés, on affirme que le noyau est l'identité personnelle, finalement. Identité personnelle qui, elle-même, se compose ou produit des intersections entre les autres registres d'identité, identité personnelle étant aussi naturellement une identité sexuelle, une identité culturelle, une identité sociale, etc., etc. Donc, cette question de l'identité constitue un réseau complexe et de plus en plus saturé de propositions normatives ou semi-normatives. Il y a là qui est, si je puis dire, le droit à l'identité. Le droit à l'identité qui se présente aussi comme droit à la diversité, les deux étant dans une dialectique extrêmement, extrêmement serrée. Alors, au travers de tout ça, je voudrais revenir sur ce thème pour poser, en fin de compte, non pas la question de l'existence des identités, nous verrons que bien que ce soit une question compliquée, on peut en proposer une résolution, mais la question de la capacité normative de l'identité, c'est-à-dire de la possibilité pour elle de se présenter non pas comme un état, mais comme une affirmation, une obligation ou une norme. et de se présenter non pas non plus exactement comme une équivalence anonyme, c'est-à-dire une coexistence générale d'identité, étant entendu qu'en un certain sens, n'importe quoi qui existe peut être présenté sous le signe de l'un, mais comme un réseau ordonné, dans lequel, en définitive, il y a sens à parler de la supériorité ou de l'infériorité, donc d'une relation d'ordre entre les identités, coexistence dans un ensemble mondain. Alors, on va commencer, comme toujours, il faut le faire, au niveau le plus abstrait, c'est-à-dire au niveau logique. L'identité, comme vous le savez, s'est présentée très tôt, des Aristote et avant, sans doute dès Parménide, dans la figure du principe d'identité. Avant qu'il y ait l'identitaire, avant que soit pensée l'identitaire, il y a la pensée du principe d'identité, c'est-à-dire du niveau logique de la question, c'est-à-dire ce qui affirme que A est A. Premier principe de la raison, selon Aristote. Alors, je dirais simplement ceci sur le principe d'identité, A est A, que c'est un principe qui naturellement suppose l'immuabilité de A. C'est un principe qui fonctionne dans l'espace de l'être parménidien, c'est-à-dire de l'être comme immobilité constitutive. Parce que, évidemment, si A change, eh bien, il va justement, en un certain sens, devenir différent de lui-même. C'est-à-dire que A devenant A prime, eh bien, il est autre que lui-même, cependant, il est le même, et donc on ne peut pas dire que A est A. On peut dire que A est le devenir de A, et ainsi de suite. Et Hegel montrera beaucoup plus tard qu'en effet, il faut qu'en un certain sens, A puisse être, en tant que devenir, la négation de A, la négation intérieure de lui-même. Autrement dit, au niveau logique, il y a tout de suite une question qui est que le principe d'identité, A est A, a sans doute une validité, mais c'est une validité d'invariance. C'est-à-dire qu'on pourra dire A est A pour autant qu'on a saisi dans A quelque chose qui, traversant toutes les modulations, déclinaisons et transformations de A, demeure cependant un principe de reconnaissance de A et de son identité à lui-même. C'est pourquoi le principe d'identité, finalement, est un principe qui revient à admettre qu'il y a une essence de ce qui existe. Entre la théorie philosophique de l'essence de quelque chose et la question de l'identité, il y a un rapport intime et originel. Parce que ce qu'on appelle l'essence de quelque chose, c'est précisément ce qui demeure invariant dans les transformations dont la chose est l'acteur ou le sujet. Et alors, cette question va rôder d'un bout à l'autre de toutes les formes de la question identitaire. C'est-à-dire, la question de l'identité, comme on le dit couramment, elle est liée à une doctrine essentialiste. Entendons par là une doctrine qui considère que ce qui existe dans un monde déterminé possède une certaine essence, que cette essence est fondamentalement l'invariant structurel de ce dont on parle, et que cet invariant structurel, en fin de compte, est précisément l'identité de la chose, en tant que c'est ce qui permet de dire qu'elle est elle-même, c'est-à-dire qu'elle est le même qu'elle-même, à savoir que A est A. A est A du point de vue de la conviction qu'il existe une essence de A, et pas d'un point de vue entièrement ouvert. Et si évidemment on suppose que les choses sont immergées dans le temps et que la transformation est leur être, on ne peut pas valider le principe d'identité comme tel. Juste pour donner un exemple d'une première complication. Deuxièmement, remarquons ceci, si on dit que A est le même que A, ou que A est identique à A, cela suppose que la mêmeté, c'est-à-dire le fait que quelque chose puisse être le même que lui-même, soit, elle, invariante. C'est-à-dire quand vous dites A est le même que A, et que vous dites B est le même que B, vous supposez que dans les deux cas, vous dites la même chose. à savoir que le même, lui, reste le même. Et que l'identité repose sur une identité de l'identité, en fait. Ça, c'est un point subtil, mais tout à fait important. Et il faut que vous ayez le même concept de la mêmeté pour savoir, quand vous dites qu'une chose est même qu'elle-même, que c'est invariant, ça. Et que quand vous allez dire qu'une autre chose est la même qu'elle-même, vous direz de cette deuxième chose la même chose que ce que vous avez dit de la première. Si entre-temps le fait d'être le même changeait, évidemment il n'y aurait aucune espèce de signification invariante de l'idée du principe d'identité lui-même. Autrement dit, le principe d'identité doit être identitaire. Voilà. Ou si vous voulez, l'identité, il doit y avoir une identité de l'identité. S'il n'y a pas d'identité de l'identité, dire que la chose est identique à elle-même peut parfaitement, en réalité, recouvrir de complètes variations. Autant dire qu'il n'est possible de se poser la question de l'identité, quelle qu'elle soit, alors là, quel que soit le registre, que si on admet qu'il y a une législation de la différence, et donc de la mêmeté. C'est-à-dire que le même et l'autre sont réglés de telle sorte qu'on peut identifier ce qui est même sans ambiguïté. Et que dire d'une chose qu'elle est la même qu'elle-même, c'est dire en un certain sens la même propriété que quand on dit qu'une autre chose est même qu'elle-même. Remarquez qu'après tout, ça n'est pas évident. Ça a l'air de l'être comme ça, mais ce n'est pas évident. Peut-être que chaque chose commande un principe de mêmeté à elle-même qui n'est pas le même que celui d'une autre chose. Peut-être que être le même que quelque chose dépend de ce qu'est la chose, et non pas d'une loi générale de la mêmeté. Et ça peut paraître un peu sophistique, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. On pourrait immédiatement trouver des exemples dans des cultures différentes du fait que le même n'est pas le même. C'est-à-dire où deux phénomènes ou deux personnes qui, dans une société, seraient considérées comme les mêmes pour telle et telle raison, dans une autre, seraient considérées comme tout à fait différentes. On peut parfaitement fournir des exemples de ce genre. L'anthropologie, mais aussi toutes les disciplines du collectif, montre qu'il y a une vraie question de savoir comment on reconnaît, quelle est la législation du même et de l'autre qui permet de dire que quand je dis qu'une chose est même qu'une autre, je dis le même que quand je dis qu'une autre chose est le même. Donc, la mêmeté de la mêmeté ou l'identité de l'identité est une question qui elle-même fait vaciller la question de l'identité. C'est comme si on prend l'énoncé si commun, ah, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. C'est une application du principe d'identité. Ça suppose qu'on sache ce que voudrait dire qu'ils sont comme nous. Mais pour savoir ce que veut dire le fait qu'ils sont comme nous, ou pas comme nous, ça veut d'abord dire qu'on sait ce qu'est nous, d'une certaine manière, et qu'on sait ce que, à propos de ce nous-là, veut dire qu'être le même que ce nous. Et donc, en général, quand les gens disent « ils ne sont pas comme nous », ils disent quelque chose dont ils n'ont pas la moindre compréhension. Éventuellement, si on les interroge, ils vont citer un trait, en général. Ils vont dire « oh ben non, ils boivent que de la bière ». Ou voilà, des choses de ce genre. Ça revient toujours à des choses de ce genre-là. Ou bien « ils sont sales ». Ou bien, voilà. Je me souviens quand j'étais jeune à Toulouse, les Espagnols n'étaient pas comme... Enfin, beaucoup de Toulousains disaient « les Espagnols ne sont pas comme nous ». Il y avait plein d'Espagnols, puisqu'il y avait eu la guerre civile à côté et que les réfugiés républicains étaient à Toulouse en masse. Et alors qu'on demandait les Espagnols pourquoi ils ne sont pas comme nous. « Oh ben, vous rendez compte, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une baignoire, ils mettent leur charbon dedans. » Effectivement, pas mal de réfugiés républicains espagnols n'avaient sans doute jamais vu de baignoire de leur vie, ça, c'est improbable. Mais vous voyez, je cite cet exemple parce qu'on prend un trait et on fait de ce trait l'invariant de la question du même. Or, c'est évidemment une entreprise tout à fait absurde d'isoler un trait et de déclarer qu'au nom de ce trait, on a une loi de différence, sans avoir expérimenté de quel nous on parle, ni finalement quel est le degré de stabilité de cette mêmeté. Alors, ce que je propose de dire sur ce point, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà suivi les choses, c'est que, en réalité, en effet, dans un monde déterminé, mais dans un monde déterminé exclusivement, il y a toujours une législation de la différence. C'est précisément ça, un monde particulier. Un monde particulier, c'est un monde dans lequel la question de la différence entre deux objets de ce monde est réglée par un transcendantal particulier. Et par conséquent, comme la différence est réglée, eh bien, l'identité aussi. Parce que l'identité, ça va être le minimum de différence. C'est-à-dire que les différences vont être échelonnées, le degré de différence entre deux objets sera échelonné, et finalement, que deux objets soient identiques signifiera qu'ils sont minimalement différents, c'est-à-dire qu'ils sont dans la différence qui, dans ce monde-là, est considérée comme zéro. Mais ça signifie, et c'est un point tout à fait important, que l'identité vient à ce qui existe par une loi extérieure. Autrement dit, l'identité, et ça va être le paradoxe sur lequel nous avons travaillé, l'identité est par excellence ce qui vient du dehors. Parce que il n'y a identité que pour autant que vous avez une régulation de la différence qui, elle, ne provient pas du tout des objets qui sont là, mais qui est qu'au contraire la loi de leur corrélation, de leur différence et de leur identité. Par conséquent, l'identité, c'est une loi de l'autre. Ça, c'est important et intéressant. C'est parce qu'il y a, comme dirait Lacan, c'est parce qu'il y a le grand autre qu'on peut parler d'identité. Pas du tout parce qu'il y a de l'identité. Alors, ça, c'est une chose à propos duquel il faut passer en revue les exemples les plus ordinaires. Le fait que subjectivement, alors, au niveau du sujet, les éléments constitutifs d'une identité viennent du dehors est absolument flagrant, évidemment. D'abord, le fait de naître là ou ailleurs, c'est franchement quelque chose qui vient à celui qui naît. C'est pas lui. Il n'y est proprement pour rien. Il est le résultat d'une combinaison locale, et il est né là. Et le fait est qu'il ne pourra pas dire qu'il n'est pas né là, pour la bonne raison qu'il n'a pas de pouvoir sur ce point. De même, et l'importance de ça, comme on sait, est considérable, avoir tel ou tel nom propre. Comme l'ont remarqué Lacan, qui en tirait de toutes sortes de conséquences, non seulement le nom propre vous vient du dehors, mais il a en général été décidé bien avant que vous existiez. Le nom, lui, était combiné selon les législations existantes, avec les filiations, mais il était combiné quelquefois depuis des générations. Et le prénom a été amplement discuté lors de votre existence fœtale ou même avant. Donc ces choses-là, non seulement viennent du dehors, mais ils viennent d'une sorte de pré-vie. Ils pré-existent à votre existence. De même, évidemment, avoir telle ou telle allure générale. Les traits, toute une série de traits extérieurs, bon, la couleur, la taille, la physionomie, etc. Et aussi être originellement dans tel ou tel milieu, bon, ainsi de suite. Tous ces traits qui vont être ramassés du dehors, en fin de compte, par les États, les puissances, les organisations symboliques, comme des traits identitaires, ont cette caractéristique fondamentale d'être advenus à l'individu du dehors. Ce qui est identitaire, or ce sont les traits les plus communément reconnus comme identitaires, justement, vous le voyez bien. Le milieu culturel, la religion, le pauvre bébé qu'on baptise, il n'a pas demandé. Il est catholique, en un certain sens pour toujours. C'est pas son affaire, si je puis dire. Mais ça peut lui entraîner toutes sortes d'ennuis plus tard, néanmoins. Surtout avec avoir ce qui est arrivé à des gens de telle ou telle religion, à ceux qui sont juifs. Voilà. Tout ça, c'est une saisie puissante et par le grand autre et qui est une saisie articulée et revendiquée dans un registre identitaire. Alors, l'identité du sujet, dans une large mesure, ce qui est identitaire dans le sujet, dans une large mesure, c'est en lui la voie plus ou moins subjective de l'altérité. Ça commence comme ça. C'est dans le sujet la voix de l'autre. Et c'est à la voix aux deux sens, la voix avec un X et la voix avec un E. C'est la voix avec un X parce que c'est un impératif, comme ça, qui venant de l'autre lui dit « tu es ceci ». Et la voix avec un E parce que cet impératif qui dit « tu es ceci » dit aussi « tel est ton chemin ». Tel est le chemin qui t'est proposé. Alors que le sujet, ensuite, fasse de cette prescription de l'autre ceci ou cela, ça, c'est évidemment ce qui fait qu'il y a, en définitive, des sujets. Je ne suis pas en train de soutenir que le sujet, comme tel, est prescrit quant à sa voie intérieure identitaire. Mais, néanmoins, ça va signifier que pour autant qu'un sujet décide de ne pas être entièrement la proie de l'autre, il va falloir qu'en un certain sens, il récuse toujours quelques éléments de cette identité. C'est-à-dire que la liberté n'est pas identitaire. La liberté est toujours une inflexion au minimum, une rupture au maximum, dans la registration identitaire en tant qu'elle est une prescription de l'autre. Alors, je crois que, de ce point de vue-là, au niveau subjectif, on peut exprimer l'identité par le registre d'une double négation. La formule que je proposerai, c'est la suivante. En moi, l'élément proprement identitaire, c'est ce dont je ne peux pas dire que je ne le suis pas. C'est ce dont je ne peux pas dire que je ne le suis pas. Bien que, pour l'essentiel, je n'y sois pour rien. Voilà. Et je pense que le socle subjectif de l'identité, c'est ça. C'est cet élément de double négation singulière. Je ne peux pas dire que je ne le suis pas, bien que je n'y sois pour rien. Alors, vous voyez, le ressort, c'est que ce n'est pas ce que je suis, mais c'est ce dont je ne peux pas vraiment dire que je ne le suis pas. Parce que c'est composé de choses qui sont, en un certain sens, indéniables. Je suis né ici, je suis de telle ou telle couleur, j'ai tel ou tel héritage, ceci m'a été transmis, mon nom l'indique, etc. L'ensemble de ces éléments qui sont, font la prescription de l'autre, sont en effet identitaires au sens où je ne peux pas vraiment dire que je ne le suis pas. Bien que, pour l'essentiel, je n'y sois pour rien. Mais enfin, ça, c'est la condition humaine. C'est qu'il y a quantité de choses dont nous ne pouvons pas dire que nous ne le sommes pas, bien que, en effet, ce n'est pas nous qui ayons d'aucune façon décidé de l'être. Ce fut décidé, ça a décidé, comme pour parler freudien. Ça a décidé, quelque part. Et vous voyez bien que l'altérité qui parle en moi comme voix et comme voix, aux deux sens du mot voix, et ce que je cherche à être en tant que j'y serai pour quelque chose, voilà, et pas pour rien, il y a cet élément qui est à la fois comme une présence et un obstacle, mais qui est aussi constitutif de moi, qui en ce sens est en effet identitaire, et qui est ce dont je ne peux pas dire que je ne le suis pas. C'est extrêmement élémentaire. Si je mesure 2 mètres, je ne peux pas dire que je suis petit. C'est comme ça. Et quantité de choses fonctionnent à ce régime. Et je n'y suis pour rien, et cependant je ne peux aucunement nier que tel est le cas de ce qui m'est advenu réellement ou symboliquement. Et alors, c'est à cette lumière-là que je voudrais interpréter, donner l'interprétation, si je puis dire, de gauche, de quoi que je pense de la gauche, l'interprétation de gauche de l'énoncé, du fameux énoncé de Nietzsche qu'on apprend en classe terminale, « Deviens qui tu es ». Deviens qui tu es. Alors, deviens qui tu es, ça veut dire, moi je veux dire, deviens qui tu es, ça veut exactement dire abandonne ton identité. Abandonne ton identité. Ça ne veut pas du tout dire réalise ton identité, parce que réaliser son identité, ça veut dire obéir plus encore à la voix de l'autre. Donc ça c'est l'interprétation de droite. Évidemment, l'interprétation identitaire de la maxime de Nietzsche, c'est-à-dire l'interprétation nazie, interpréter « deviens qui tu es » par « sois enfin à la hauteur de ce que l'autre te demande hein ». C'était ça. Donc, sois vraiment un Allemand, à la fin des fins, au lieu de toujours vivre en te rendant compte que bah, tu ne peux pas dire que tu n'es pas Allemand, parce que voilà, mais tu n'y es pour rien. Eh bien, l'interprétation nazie de Nietzsche, c'est « sois-y enfin pour quelque chose ». Ce qui veut dire « assume comme si elle était la tienne, la voix de l'autre ». Dire « fais comme si ton identité, qui est en réalité largement prescrite, était ce que tu as désiré être ». On voit très bien en ce point deux interprétations diamétralement contradictoires, diamétralement opposées, être praticables de cette maxime. L'interprétation qui consiste à dire « deviens qui tu es », où on prend le « tu es » comme les éléments identitaires prescrits par l'autre, alors « deviens qui tu es », ça veut dire « deviens cet autre en toi qui fut logé en toi dès l'origine », ce qui veut aussi dire, d'ailleurs, et ça c'était tout à fait le vocabulaire fascisto-identitaire, c'est-à-dire « deviens ton origine », en réalité. « Deviens ton origine ». Et c'est un fétichisme de l'origine. Pourquoi ? Parce que l'origine, c'est ce qui est autre. C'est le grand autre, l'origine. Ça n'est rien d'autre. Ce que nous devenons, nous, ce n'est pas l'origine, naturellement. Ce que nous devenons, c'est précisément ce qui infléchit, s'écarte ou ne se laisse pas prescrire par une origine. C'est la désorigination qui est la véritable manière d'exister librement. Mais « deviens qui tu es » si on le prend en son sens de droite, c'est le contraire. « Deviens l'identité que tu portes en toi parce qu'elle t'a été prescrite, comme elle est prescrite à tout le monde, sous la forme de ce que tu ne peux pas ne pas dire que tu es. » Et alors, mais évidemment, ce que le fascisme veut supprimer, c'est la clause qui vient après. « Je ne peux pas dire que je ne le suis pas, mais ce que je peux dire, c'est que je n'y suis pour rien. » Et on pourrait dire que le fascisme, c'est ce qui consiste à supprimer cette restriction implicite, toujours présente malgré tout dans le sujet libre, qui est, oui, je ne peux pas dire que je ne le suis pas, mais comme je n'y suis pour rien, je peux aussi dire que ce n'est pas moi en un certain sens. Autrement dit, que mon identité n'est pas moi ou que mon origine n'est pas moi. Si bien que je pense réellement qu'il y a deux interprétations tout à fait opposé de la maxime de Nietzsche, qu'on pourrait récapituler ainsi, finalement, ou bien parle à la hauteur de l'autre qui te prescrit, avec ce que ça peut donner d'ailleurs de fanatisme identitaire, et par conséquent d'héroïsme identitaire aussi, pour être à la hauteur de ce que l'autre a dit. En général, il faut au moins mourir pour ça. Parce que l'autre, c'est pas commode. Hein. Ça parle fort. Et puis, il y a l'autre figure qui est, au contraire, abandonne autant que faire se peut ton identité. Si on entend par identité, ce que je crois qu'elle est de façon principale, l'ensemble de ce qui, de ce à propos de quoi on peut dire en double négation que je ne veux pas dire que c'est pas vrai. Abandonne autant que faire se peut. Et là, la prescription est une prescription qui va être obligée de prendre appui sur autre chose que sur l'autre, évidemment. Ce qui veut dire que le prix à payer va être qu'à un moment donné, on va être suspendu hors de la garantie identitaire. C'est-à-dire on va être désassuré de l'autre, désassuré de l'accueil de l'autre, qui est quand même ce qui dit ce qu'est mon pays, ce qu'est ma langue, ce que sont mes parents, etc., etc. Beaucoup de choses, énormément de choses. Et si on interprète Nietzsche comme « abandonne autant que faire se peut ton identité », ça veut dire « trouve un chemin qui n'est pas celui de cette prescription-là ». Alors, si c'est un chemin qui n'est pas celui de cette prescription-là, eh bien, il va falloir se fier non pas à une origine, mais à une rencontre. Une rencontre, par conséquent, avec quelque chose qui est désoriginant parce que c'est incalculable, imprévisible, non normé par l'origine. Et alors, on pourrait dire ça, on peut dire il y a une conception identitaire du point de vue du rapport du sujet à l'identité. Il y a une conception identitaire qui cherche, au fond, à résorber la subjectivité, l'identité subjective dans la puissance symbolique de l'autre, c'est-à-dire qui fait de l'identité une modulation de l'altérité immanente. Et puis, il y a une vision, au contraire, une norme d'un genre tout différent, et qui est une norme d'abandon, de délaissement de l'identité, pour se confier à une aventure, toujours, c'est quand même toujours une aventure, se confier à une aventure. Et toute aventure présuppose un régime de la rencontre. Et alors, si on reste dans le vocabulaire lacanien, on dira la rencontre, c'est le petit autre. C'est ce qu'on rencontre comme petit autre, quelque part. Voilà. Et la liberté, elle est du côté du petit autre, malgré tout pas du grand autre. Elle est du côté de cette altérité horizontale, comme ça, qui va provoquer ou proposer une rencontre qui va être comme une bifurcation par rapport à la massivité et à l'altérité, en un certain sens, toujours intimidante et puissante de l'origine et de l'identité en son sens, au sens du grand autre. Alors, c'est pour ça que je pense qu'une bonne partie de la liberté non identitaire, ça vous voyez évidemment pourquoi, mais je pense que, en réalité, cette liberté, c'est-à-dire l'obéissance à la maxime, à la version de gauche de la maxime de Nietzsche, c'est-à-dire deviens qui tu es, c'est-à-dire abandonne, ça veut dire en réalité deviens ce dont tu es capable, et non pas deviens ce qui t'a été prescrit, ou ce qui est prescrit. Donc deviens ce dont tu es capable, ça prend appui sur une fragilité, et pas sur un ordre. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle une rencontre. Ça prend toujours appui sur une rencontre, c'est-à-dire sur quelque chose qui est restreint d'apparence, quelque chose qui se produit dans la vie, mais comme une bifurcation, comme un déroutement, quelque chose qui vous délie du chemin primordial, celui qui était la voie avec un E, tel que la prescrit la voie avec un X de l'autre. Donc, parvenu à ce point, il faut comprendre sur cette question de l'identité que il y a dans l'identitaire, en son sens traditionnel, il y a quelque chose comme l'inflexibilité d'une juridiction. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas dire que je le suis. Et au fond, l'identitaire, ce n'est pas une possibilité. Ce n'est jamais présenté comme une possibilité. Même dans les discussions sur l'identité, c'est jamais présenté comme une possibilité, l'identitaire. C'est présenté comme un ne pas pouvoir. D'abord soi-même, mais aussi ne pas pouvoir accepter autre chose. C'est une inacceptation essentielle. C'est d'ailleurs comme ça que ça se manifeste de façon principale. Pour des raisons sur lesquelles je vais revenir naturellement, c'est qu'en réalité, cette impérativité est celle d'une fiction. Ça, on a déjà parlé de ce point-là. Mais surtout, là, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un non-pouvoir. Je ne peux pas ne pas. Et se déprendre de l'identitaire, c'est donc toujours découvrir un pouvoir. Découvrir qu'on peut quelque chose. Alors qu'être fidèle à l'identité, c'est toujours, en un certain sens, dans un ne pas essentiel. Ne pas partir à côté, ne pas sortir, ne pas rester, demeurer, conserver. Et alors, cette invention d'un pouvoir, Elle ne peut pas sortir ou émaner de la clôture du sujet, ou de la clôture individuelle, plus précisément. C'est pour ça qu'il y a une interprétation de « deviens qui tu es » qui est « je vais m'exprimer ». Mais on n'exprime rien du tout. Celui qui veut s'exprimer, il ne fait que répéter dans la modalité qui lui est propre qu'il ne peut pas ne pas. De toute façon, il va ressasser qu'il ne peut pas ne pas. En réalité, le sujet ainsi conçu est entièrement creux, puisqu'il n'est rien d'autre que l'écho de l'autre. Tandis qu'un pouvoir réel, c'est tout à fait autre chose. Un pouvoir réel, c'est quelque chose qu'on rencontre, c'est quelque chose dont on s'aperçoit que je peux. Et on appellera événement. De manière tout à fait générale, là, il y a des grands événements et des petits, on appellera événement ce qui est l'occasion de rencontrer un pouvoir, un « je peux ». C'est-à-dire l'occasion qui rend possible à l'individu la découverte d'une capacité qu'il ne se connaissait pas. Et pourquoi il ne se connaissait pas ? Parce qu'il était au régime identitaire. Qui nous gouverne très souvent. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des identitaires d'un côté et puis c'est pas ça. En réalité, l'identitaire nous gouverne pour 99,9%, en règle générale. Moi, je ne peux pas ne pas, ça veut dire je vis comme d'habitude, quoi. Je ne peux pas ne pas faire autre chose. Et ça, c'est quand même implacablement vrai, d'une certaine manière, que la voix de l'autre nous prescrit de façon essentielle. Simplement, cet essentiel peut être dérouté, c'est-à-dire apparaître à un moment donné comme inessentiel, dans son essentialité même, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a rendu accessible un « je peux » qui ne l'était pas. C'est ça un événement, c'est qu'un « je peux » apparaît qui n'était pas accessible, qui n'était pas là. Et ce « je peux », évidemment, c'est une interruption du « je ne peux pas ». C'est toujours une modalité qui, en un point, corrode comme ça le « je ne peux pas ». Et c'est pour ça qu'il est une objection à l'identité. Un événement, c'est une objection à l'identité, toujours. Et c'est pourquoi l'identitaire exige la répétition. Il exige la répétition parce que la répétition, c'est la garantie qu'il ne se passera rien. Voilà. C'est la garantie que la voix de l'autre prescrira de façon répétée et incessante la production subjective de l'humanité. Et ce n'est pas si l'identitaire est toujours en train de dire qu'il faut revenir à une répétition ou à une tradition ou à une origine, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est ça qui le garantit contre ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est cette petite bifurcation par une altérité au départ minime et négligeable peut-être, mais qui précisément est porteuse d'un « je peux » dont le développement, dont la croissance et le développement va finalement changer la vie. Changer la vie, c'est-à-dire limiter le « je ne peux pas ». Parce que c'est tout ce que nous pouvons faire, hein, limiter le « je ne peux pas ». Il n'y a pas de bascule absolue du « je ne peux pas » au « je peux ». Ça, c'est des visions mystiques. Bien qu'on en soit toujours tenté quand on découvre le « je peux », parce qu'évidemment, c'est une expérience aussi radicale en un certain sens, même si elle est minime, même si elle est limitée. Mais il n'y a pas de bascule du « je ne peux pas » au « je peux ». Il y a toujours l'autre. Et je continue à être obligé de dire « ah ben ça, je ne peux pas ne pas dire que ». C'est vrai, je ne peux pas dire que je n'ai pas mon âge. 4000 choses qui nous composent sont constitutives et vont rester. Donc le « je ne peux pas ne pas », »,« je ne peux pas ne pas » va constituer une stabilité quand même majeure. Mais ça, c'est l'identitaire. C'est l'identitaire et on peut... Le je peux dans sa vulnérabilité première, puisque rien ne le garantit. Rien ne le garantit, puisqu'il n'est pas la voix de l'autre. Il y a donc quelque chose, il est un petit autre, non garanti. Et c'est lui, ce petit autre-là, qui n'est pas identitaire, qui est une négation vraie, d'une certaine manière. Alors, on peut redire tout ça en l'approchant de façon plus politique. Puisqu'après tout, le débat sur l'identitaire prend toujours cette forme-là à un moment ou à un autre. Je vous avais proposé de dire que en réalité, il existait dans le monde contemporain toujours quatre orientations politiques fondamentales. En prenant orientation politique en un sens qui n'est pas celui de la description empirique des situations, mais finalement, il y a quatre orientations politiques majeures. Je vous avais dit, je vous proposais de les appeler fascistes, conservatrices, réformistes et révolutionnaires. C'est intéressant de revenir un moment sur, compte tenu de ces quatre orientations, fascistes, conservateurs, réformistes et révolutionnaires, sur quel est leur rapport exact au problème dont on traite ce soir, à savoir cette question de l'identité, de l'altérité immanente à l'identité, de la tradition, des deux interprétations opposées possibles de la maxime de Nietzsche, de l'événement, etc. Alors, on voit très bien qu'aux deux ailes, évidemment, la contradiction est toujours plus flagrante, et entre fascistes et révolutionnaires. On peut dire que le fascisme, c'est ce qui prétend faire de l'identité une maxime active. C'est-à-dire, le vrai fascisme, il va incorporer de la tradition, mais son véritable moteur, c'est de faire de l'identité, et par conséquent, en réalité, du grand autre, une puissance active, véritable. C'est-à-dire de le souder à l'État lui-même, à la puissance de l'État, à faire que l'État lui-même est un État identitaire et qu'il exige que l'origine soit le principe de sélection. C'est pour ça qu'il est dans sa forme extrême, il est nécessairement raciste. Au-delà de son aspect le plus ordinaire, qui est d'être nationaliste. Mais en réalité, le nationalisme est, aux yeux du fasciste véritable, un sous-produit très important, très majoré, mais c'est du moment que c'est une identité, vous voyez bien que nation n'est pas suffisant comme déclinaison d'une identité pure. On peut dire que ce n'est pas encore assez le grand autre, la nation. C'est quand même un appareil, une administration, une armée, tout ce qu'on veut. C'est pas de l'identité pure. Et donc le racialisme, sous différentes formes, vient toujours à l'appui du nationalisme exacerbé en tant que principe identitaire. C'est pour ça que même le nommé Guéant, pour citer un personnage de second ordre, il faut qu'il finisse par dire qu'il y a une civilisation supérieure, quand même. Et il faut qu'il y vienne. Il faut qu'il y vienne. Et je pense que c'est logique. C'est pas un dérapage. En réalité, c'est le noyau de la conviction. C'est le noyau de la conviction. Alors après, il va expliquer que civilisation supérieure, c'est pas racialiste, etc. Bon, mais en fait, vous voyez bien le mouvement. Le mouvement, c'est que si vous êtes dans la logique de l'identité, il faut la pousser jusqu'au moment où le fondement ultime de l'identitaire est si originaire que, en fin de compte, il est biologique. Parce qu'il n'y a que ça qui soit suffisamment stable pour lui donner une garantie. Alors là, Guéant, il s'est arrêté juste avant. C'est civilisation, bon, religion, langue, etc. Enfin, bon, le policier moyen, il ne s'y trompe pas. Je veux dire, c'est celui qui a la gueule de l'emploi qu'on va arrêter. Il ne va pas lui demander s'il est ceci ou s'il est cela. Il est un peu basané, on le prend. Voilà. Il a bien entendu Guéant, le non-dit. Mais le non-dit qui était... Voilà. Et donc ça c'est le au fond, on pourrait définir l'orientation fascisante en politique comme une orientation qui cherche à faire de l'identitaire le moteur de l'action. Pas simplement le constat des choses, mais une dimension conquérante et donc, à la limite, nécessairement aussi exterminatrice. Exterminatrice, pourquoi ? Parce que l'identité, qu'est-ce que c'est que l'affirmation de l'identité pure ? C'est l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul autre. C'est pas qu'il n'y a qu'une seule identité, c'est qu'il n'y a qu'un seul autre. C'est-à-dire, comme le disait parfaitement Hitler, il ne peut y avoir qu'un seul peuple élu. Un seul peuple élu, ça veut dire, vous entendez bien, ça veut dire l'autre, le grand autre est unique. Et il a dit que c'était moi. Bon, alors s'il y en a un autre qui prétend aussi, il faut l'exterminer. Et quand je dis qu'il est exterminateur, ça peut être dans des modalités, évidemment. Hitler avait le radicalisme allemand. Hein, mais les formes misérables que ça peut prendre aujourd'hui ne valent pas mieux, finalement. Du point de vue de leur ressort intime, elles sont adossées à la même logique, qui est que, bon, ben, en tout cas, il faut interdire d'entrer, expulser, séparer, renvoyer chez eux, etc., etc. Ce qui, tendanciellement, veut dire on n'en veut pas. On n'en veut pas. On veut garder notre identité, c'est-à-dire on veut avoir le grand autre à nous. Voilà. Et ça, c'est le fascisme, c'est la pureté du grand autre. Pureté du grand autre. Alors, du côté du révolutionnaire, en réalité, le mouvement révolutionnaire a, dans son authenticité véritable, avec des tas de déviations, on y reviendra, des déviations identitaires marquées, des périls identitaires répétés, etc., mais dans son essence propre, pour autant qu'il est l'opposé de l'orientation fascisante, l'orientation révolutionnaire, elle est dans la version de gauche de la maxime de Nietzsche. C'est-à-dire, elle est universaliste dans son principe même. Et elle est, au niveau collectif, l'identité doit être ce dont on s'écarte. faut quand même bien voir que quand on a demandé à Marx, quand Marx s'est demandé à lui-même ce qui différenciait le communiste du mouvement ouvrier général, il a cité d'abord et avant tout l'internationalisme. Et ça, c'était fondamental. C'était le principe absolu de la chose. Ça doit abandonner l'identité nationale. Ça doit abandonner l'identité nationale. Et c'était une thèse qui, en pleine période de croissance des nationalismes partout, était une thèse d'un radicalisme inouï. Il faut bien voir ça. Thèse largement oubliée ou inactive, alors qu'elle demeure essentielle, centrale. Elle est centrale pour la raison que nous venons de dire. D'ailleurs, justement, et il n'y a pas de fragmentation du grand autre, il n'y a pas ces entités identitaires. Bien sûr, il y a de l'identité. Bien sûr, Marx savait, comme tout le monde, qu'on ne peut pas ne pas être né là, être comme ci, comme ça, être noir ou blanc, etc. Il ne faut pas le dire. Mais il disait que c'est en s'infléchissant par rapport à ça, dans une distance aussi grande que possible à ça, qu'on peut accéder à une politique qui soit digne de ce nom et qui ne soit pas, en fin de compte, le fait de ruminer dans son fumier natal. Voilà. Alors et comme il était cela, il était aussi événementiel. C'est-à-dire qu'il était convaincu que pour porter ça, il fallait des ruptures événementielles, il fallait une proposition qui déroute véritablement la structure de son destin. Et c'était le concept de révolution. Le concept de révolution, il indique simplement qu'au niveau politique, l'idée générique d'un déplacement ou d'un transbordement de l'identitaire est internationaliste, bien sûr, et qu'elle est inévitablement événementielle parce que seuls des événements peuvent faire l'épreuve, mettre à l'épreuve les identités. Ça reste absolument vrai. On en a parlé l'année dernière, même si ça commence de nouveau à être oublié. Le moindre mouvement de masse véritable, d'amplitude historique, met à l'épreuve les identités. Met à l'épreuve au sens strict. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être la loi des choses. Elles ne peuvent plus momentanément être la loi des choses, qu'elles soient religieuses, langagières, etc. Et puis alors, entre les deux, les conservateurs et les réformistes, en réalité, eux pratiquent une version identitaire que j'appellerais une identité défensive. C'est-à-dire, en réalité, on assume l'identitaire, mais on l'assume non pas comme propos héroïque, conquérant et exterminateur, comme dans le fascisme réellement déployé, mais on l'assume comme défense raisonnée d'un petit précaré identitaire plutôt médiocre. Voilà. Et ça pourquoi ? Parce que, en réalité, on assume l'existence d'une oligarchie mondiale dont on est bien content de faire partie, mais on défend aussi sa petite entreprise locale, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut être comme le pion local de l'oligarchie mondiale lorsqu'on est une puissance de second ordre, voilà. Alors, il va falloir expliquer que quand même on est français, donc c'est pas mal. Bon. Quand même, vous ne pouvez pas ne pas dire que vous êtes français. Et alors, il faut trouver des démarcations, alors, les conservateurs vont toujours accuser les réformistes d'être moins identitaires qu'eux. C'est la loi du genre. Et les réformistes vont toujours tenter de prouver que non, qu'ils sont aussi identitaires que les autres. C'est ça le drame. Alors, il va falloir de temps en temps qu'ils empruntent un peu aux révolutionnaires pour essayer de déborder un peu ce jeu très intriqué entre cette dispute identitaire misérable, malgré tout, auquel on assiste, qui est que quand même chacun brandit cette identité comme s'il en était le détenteur, le porteur, le gérant, au moment même où en réalité cette identité est purement défensive et représente un « je ne peux pas » flagrant. C'est-à-dire, finalement, les conservateurs et les réformistes étant fondamentalement d'accord pour dire que, vu l'enchaînement au grand autre mondialisé qui est le nôtre, eh ben, je ne peux pas faire autrement que l'autre. Voilà. Ça, la règle. Je ne peux pas me décoller. Et alors, de ce point de vue, on peut voir naturellement que les extrêmes du spectre politique se concernent de manière absolument différente par rapport à l'identité, et que ce qu'il y a au milieu instrumente l'identité dans une perspective défensive, fragmentaire, sauf s'il s'agit éventuellement d'un impérialisme dominant. Je voudrais indiquer au passage que cette question a traversé le mouvement révolutionnaire lui-même dans des conditions très difficiles. Parce que toute la question était de savoir dans quelle mesure la classe était une identité. Et ça, c'est un débat qui a été très ardu. Que désigne exactement classe ou le mot prolétariat ? Est-ce qu'il ne s'agit pas précisément de doter le mouvement révolutionnaire lui-même d'une identité spécifique ? Comme vous savez, chez Marx, la définition du prolétariat était strictement négative, ce qui évitait l'identité. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles la classe ouvrière était une classe politique, était négative. C'était précisément parce qu'elle était dans le registre de l'inexistence. Nous ne sommes rien. C'était qu'elle n'avait pas d'attribut particulier. Elle n'était rien d'autre que la nudité de la force de travail. Elle était indéfinissable par des attributs positifs. Elle était démunie, et c'était au cœur de ce démuni fondamental que son universalité s'imposait. Une internationale était forcément une internationale ouvrière, uniquement parce que ouvrier n'avait pas de rattachement intrinsèque à une identité quelle qu'elle soit. Donc, il y avait une fidélité, là, à la logique du non-identitaire, et de ce point de vue-là, on pouvait dire que la classe ouvrière, dans la représentation marxienne, était une entité dialectique, c'est-à-dire l'existence, donc identitaire comme toute existence, mais l'existence de l'universel lui-même. Elle faisait exister dans l'espace particulier du monde capitaliste européen, elle faisait exister l'universalité subjective, jusqu'à ce qu'elle se transforme en universalité objective lorsque le « je peux », le « nous pouvons » serait rendu possible et révélé par l'événement révolutionnaire. On voit très bien. Il y a eu beaucoup d'usages postérieurs de cette catégorie de façon lourdement identitaire. Par exemple, lorsque les États socialistes ont commencé à contrôler comme un facteur, malgré tout déterminant, l'origine de classe des gens. Ça, il faut constater, ça a été fait, ça a eu beaucoup d'importance, et on ne peut pas... Ça, c'était quand même transformer la catégorie en une catégorie identitaire, au sens strict, puisqu'on y retrouvait le concept clé de l'identité, qui est l'origine. L'origine de classe, parce que vos parents étaient bourgeois, vous étiez... frappé de suspicion, écarté de quantité de possibilités, etc. Je n'entre pas dans la discussion casuistique du caractère éventuellement utile de ces mesures. Ça, c'est autre chose, ça concerne l'État. Mais en tout cas, c'est sûr que du point de vue qui nous intéresse, c'est un usage identitaire d'une catégorie qui, primordialement, était précisément valorisée et mise en position de représentation révolutionnaire, à raison de son caractère non identitaire, à raison de ce qu'elle était, en réalité, un inexistant social. Et alors, ça nous indique, moi, je orienterai vers ma conclusion aujourd'hui là-dessus. Ça nous indique un problème qui est très important aujourd'hui, je crois, c'est à quel bon, on posera qu'aucune identité ne peut être normative. Vous le voyez bien pourquoi. Et aucune identité ne peut prétendre être une norme ni pour ceux qui se réclament d'elle, ni pour ceux qui ne s'en réclament pas. Ni pour ceux qui se réclament d'elle, parce que précisément, ça voudrait dire qu'on leur interdit de découvrir un pouvoir soustrait à la loi de l'identité, donc ce serait oppressif, ni pour ceux qui ne s'en réclament pas, parce que ce serait une exclusion. Donc, de façon absolument générale, aucune identité ne peut être normative. C'est déjà bien suffisant qu'elle soit là, qu'elle soit un état de choses, que je ne puisse pas ne pas dire que je suis français avec tel âge, telle taille, etc. C'est déjà bien assez, que j'ai en effet d'innombrables déterminations. C'est déjà bien assez pour ne pas en plus surdéterminer l'autre en le transformant en norme, en disant que c'est formidable. Je ne peux pas dire que je ne suis pas ça, mais le dire, c'est très bien, c'est fameux. Donc, aucune identité ne peut être normative, et comme dans l'exemple que je vous donnais tout précédemment, signifie que pas plus l'identité prolétarienne qu'aucune autre, par exemple. Est-ce que ça veut dire que soit toujours négatif un combat qui consiste à défendre l'existence d'une identité? Ce sont deux problèmes différents. Vous n'avez pas besoin de considérer qu'une identité est normative pour considérer que dans un contexte déterminé, il est légitime de la défendre. La confusion entre les deux est l'origine de grands troubles. Vous pouvez parfaitement défendre, par exemple, le droit de l'identité nationale de tel peuple colonisé ou opprimé de vouloir s'affirmer comme tel, sans que ça signifie que vous transformez le fait d'être vietnamien ou algérien en une norme. Ce n'est pas que c'est une norme, c'est que la défense de cette identité est connectée à un élément universel, à savoir les luttes de libération nationale comme partie composante du combat universel contre le capitalisme et l'impérialisme. Autrement dit, la maxime, là, est très simple. Pour défendre une identité, il faut avoir une raison non identitaire de le faire. Ça, c'est absolument imparable. Autrement dit, est légitime la défense d'une identité lorsque vous avez tout simplement une raison universelle de défendre cette identité. C'est une raison non identitaire. Voilà. Et par conséquent, la défense d'une identité, il est tout à fait normal qu'elle ne concerne pas de façon exclusive ou limitée ceux qui se réclament de cette identité. Bien sûr, ça va les requérir, mais si la raison pour laquelle la défense de cette identité est universelle est assumée, alors la défense de cette identité devient une cause pour tout le monde, et non pas simplement pour ceux qui sont porteurs de cette identité. Voilà pourquoi les combats identitaires des dernières décennies, qu'il s'agit du combat pour l'égalité des femmes dans la société, du combat pour le fait qu'on ne persécute pas les homosexuels, du combat pour que telle ethnie qui a envie de continuer à exister puisse le faire, etc., etc. Ces combats sont légitimes et universels. C'est-à-dire que la défense de l'identité, dans ces cas-là, est légitime, tout simplement parce qu'il y a de claires raisons universelles de défendre le droit d'existence de cette identité, lorsqu'elle est menacée, suspectée, exclue, etc. Mais ça n'est pas parce qu'une identité est normative. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est particulièrement bien d'être ça. Voilà. Et alors là, c'est un débat assez complexe tactiquement, parce que lorsque vous défendez quelque chose, vous avez toujours tendance à considérer que ça serait bien de dire que c'est très bien ce que vous défendez, que c'est mieux que le reste. Mais s'agissant des identités, il faut avoir sur ce point, à mon sens, une règle assez stricte, qui est de se représenter soi-même et de discuter avec les autres, etc. Quelle est exactement la norme en jeu dans ce combat identitaire? Est-ce que c'est les intérêts propres de l'identité en question? Dans ce cas-là, nous sommes malgré tout dans un combat identitaire qui ne déborde pas la question de l'identité elle-même. Ou bien y a-t-il en effet des raisons non identitaires de soutenir le droit à l'existence de telle ou telle identité, c'est-à-dire le droit de certaines personnes de dire « je ne peux pas dire que je ne suis pas ça et j'ai quand même le droit de dire que je le suis voilà. », sans que pour autant il faille transformer ça en une norme. Voilà. Alors, finalement, si on admet ça, on voit que lorsque le sujet est engagé dans une procédure à valeur universelle, quelle que soit, y compris la défense à valeur universelle d'une identité, il ne va pas, lui, se réclamer d'une identité pour le faire. Il va avoir été, au contraire, dérouté au sens nietzschéen de gauche de cette identité. Même s'il s'en réclame, c'est mieux qu'il lutte pour son identité, donc qui est la sienne, et dont il se réclame, pour les raisons universelles de l'existence de cette identité, que pour cette identité elle-même. C'est mieux. Même s'il y a des tentations de dire, ben non, c'est formidable comme je suis. Voyez comme c'est formidable, et défendez-moi parce que je suis formidable. Ce n'est pas raisonnable, même si c'est une tentation. L'exemple typique de cette tentation, est vraiment, qui a donné des produits d'ailleurs assez magnifiques, ça a été la grande séquence de la, qu'on a appelée la négritude, qui a donné quand même, chez Senghor, chez Césaire, de grands poèmes en tout cas. Dans le moment où, en retournant ce qui était dit d'eux et qui était leur infériorisation systématique en tant qu'identité par le colonialisme blanc, un certain nombre de Noirs ont affirmé la négritude comme une valeur suréminente. Et comme ils ont affirmé que, finalement, être nègre, c'était infiniment supérieur à être blanc. On peut comprendre ça, on peut en avoir l'intelligence. En fin de compte, ça fonctionnait au registre de l'universel par des biais retors, comme ça. Mais c'est pas, il faut bien voir que là, on est quand même dans une manœuvre périlleuse, parce que ce n'est jamais en retournant une position qu'on la valide, en retournant la position de l'adversaire qu'on la valide. C'est toujours en prenant un autre chemin que celui de l'adversaire. C'est précisément en faisant non pas l'apologie de la supériorité d'une identité, mais de la défense du droit identitaire de l'humanité tout entière, de toute façon, du droit de coexistence des identités multiformes, une valeur universelle. C'est pourquoi, je reviens à mon point, lorsque on est le sujet d'une procédure d'universalisation, qu'on est engagé dans l'internationalisme, qu'on est engagé dans ce qui a valeur d'émancipation, qu'on est engagé aussi dans la défense légitime et universelle de toute une série d'identités, en un certain sens, c'est dans une dimension d'anonymat qu'on le fait. J'appelle anonymat du sujet la revendication de ce que l'action ne requiert pas qu'on fasse de l'identité une norme. Ne requiert pas qu'on mette en avant son identité ou son nom, sa singularité, du point de vue de la processus de l'universalisation ou du processus du combat en question. Et donc, il y a une sorte d'anonymat normatif, lui, de toute procédure d'universalisation, lors même que ce qui est en jeu est une identité. Ça, quand on regarde de près la littérature, je pense à la littérature d'affirmation de l'homosexualité telle qu'on la trouve chez Genet, par exemple. Je prends des exemples littéraires, délibérément, plutôt que politiques. Ou le type d'affirmation du droit à l'identité qui consiste à être vieux, qu'on trouve chez Beckett. Et là, je prends des œuvres grandioses, formidables, mais qui sont quand même, à leur manière, dans l'universalisation de cette question identitaire, et qui veulent montrer qu'un homosexuel, c'est quelqu'un qui appartient à l'humanité, certes de façon singulière, en ce sens qu'il va aussi dire qu'il ne peut pas ne pas, mais aussi dans une logique d'émancipation de quelque chose. Ou quand Beckett va dire, mais les vieux, même ce qui en général on n'aime pas du tout, par exemple la sexualité des vieillards, voilà, des choses comme ça. Alors il va en affirmer au nom de la valeur universelle de l'écriture, là, il va en affirmer la grandeur à l'intérieur même de l'abjection apparente. Lorsqu'on fait cela, on est dans une promotion de l'anonyme aussi. On est dans une promotion de l'identité qui est sauvée parce qu'elle ne s'affirme pas en tant que clôture, en tant qu'identité normative. Elle n'est pas, on n'en fait pas l'éloge. On la produit dans son être générique, c'est-à-dire dans son universalité latente, et ce faisant, on en fait briller l'humanité. On en sauve et on en fait briller l'humanité. Et cet anonymat du sujet, quand il est engagé dans une procédure d'universalisation, elle nous conduirait, à partir de ce problème de l'identité, à faire l'éloge de celui qui a été anonymement absorbé par sa tâche universelle, y compris quand cette tâche universelle était la promotion d'une identité opprimée ou détournée. Et ça me permet de conclure sur mon traditionnel poème de Brecht. C'est le magnifique poème de Brecht qui s'appelle « Éloge du travail clandestin ». Et que vous allez voir, clandestin, c'est pas simplement être... C'est être caché de la police, mais c'est bien plus que cela. Je vous lis cela. Il est beau de prendre la parole dans la foule levée, de renvoyer ceux qui dominent, d'élever les anonymes. Cependant, dures et utiles sont les petites décisions ordinaires. Tout ce qui tisse en secret, obstinément, les fils d'une vérité neuve, sous l'œil requin des puissants. Parler, oui, mais en cachant l'orateur. Vaincre, oui, mais en cachant le vainqueur. Mourir, pourquoi pas, mais en dissimulant la mort. Pour la gloire, qui ne ferait de grandes choses? Mais qui les fera pour l'oubli? Que l'honneur le plus grand aille aux oubliés, aux vainqueurs sans visage, aux orateurs sans voix. sortez de l'ombre, corps dispersé et invisible de la vérité multiforme. Merci à vous, foule anonyme, qui nous libère de ce qu'il y a. Merci. Thank you.